Bonjour à tous. Alors, au moins, il y a quelque chose dont on peut se convaincre en ayant fait l'effort de porter notre voix, c'est que ça n'est pas une église cistercienne, parce que vous savez peut-être que ce qui caractérise les églises cisterciennes, c'est que si vous chuchotez à un coin de l'église, vous entendez parfaitement comme si on chuchotait à votre oreille en étant dans l'autre coin. Là, c'est pas le cas, donc je vais forcer ma voix. J'ai un peu l'habitude, parce que les édifices de 20 mètres de haut, je pratique ça, je vais pas dire quotidiennement, mais enfin assez régulièrement. Donc, je pense que tout le monde m'entend, et je vais donc continuer à placer ma voix de manière assez soutenue pour que ce soit audible. Alors, effectivement, vous avez échappé ce matin, de peu, à une interminable prédication sur Abraham que j'avais préparée, pour la raison qui vous a été indiquée, c'est-à-dire que je n'ai pas terminé hier mon interminable étude du samedi, et donc nous allons, plutôt que ce que j'avais préparé pour ce matin, terminer ce que j'avais préparé pour hier. Et donc, hier, pour ceux qui nous ont rejoints, nous sommes partis du constat, alors je ne vais pas refaire bien sûr tout ce que j'ai fait hier, mais très brièvement pour situer mon propos, nous sommes partis du constat que Jean, dans l'Apocalypse, apportait une réponse assez curieuse à la question que dans les églises on se pose de manière un peu récurrente, c'est-à-dire qu'avons-nous en commun ? Qu'est-ce qui fait notre communauté ? Qu'est-ce qui cimente notre communauté ? Qu'est-ce qui nous est commun à tous ? Et Jean fait une réponse en trois mots assez inattendue. Ce que nous avons en commun, c'est l'épreuve, c'est la royauté et c'est la persévérance. Moi, Jean, votre frère, et il insiste pour dire voilà ce qui fait de nous des frères, moi, Jean, votre frère et votre compagnon, c'est-à-dire au sens littéral du mot grec, moi qui partage avec vous, c'est ça que ça veut dire, compagnon en grec, moi qui partage avec vous l'épreuve, la royauté et la persévérance en Jésus. Et donc, on a commencé à constater hier que, loin d'être des notions totalement hétéroclites, ces notions-là avaient des liens très étroits entre elles, que l'une n'allait pas sans l'autre et l'autre sans la troisième. On a fait trois constats. Elles sont intimement liées, ces notions. Jésus est le modèle absolu dans les trois domaines. Il est la figure emblématique de l'épreuve, de la royauté et de la persévérance. C'est-à-dire que si on, pour employer l'expression habituelle, si on veut mettre un visage au sens biblique du terme, sur l'épreuve, évidemment, c'est son visage à lui. Si on veut mettre un visage sur la royauté, c'est son visage à lui. Et si on veut mettre un visage sur la persévérance, c'est aussi son visage, bien sûr. Ça, c'est le deuxième constat. Et le troisième constat, un peu plus inattendu, c'est que alors que ces notions-là paraissent nous renvoyer à ce que nous sommes individuellement, j'ai dit hier que une expression habituelle, c'était de dire « on est toujours seul dans l'épreuve, quel que soit le nombre de ceux qui nous entourent ». Et la persévérance, on pourrait presque dire la même chose. En réalité, avec les textes bibliques qu'on a étudiés, on a vu que c'était vraiment des domaines où il pouvait exister une véritable communion, c'est-à-dire où on avait besoin les uns des autres. Alors, merci Michel d'avoir résumé le premier point que j'avais abordé, c'est-à-dire l'épreuve. Donc je n'y reviens pas. Et donc il nous reste ce matin deux points à aborder. Ce sera, je l'espère, beaucoup plus rapide qu'hier et j'espère aussi moins porté sur l'étude et plus sur l'exhortation, puisque nous sommes au milieu de notre culte, du culte que nous rendons à notre Dieu. Et donc je vais aborder ces deux autres points. La royauté. Et j'ai dit hier que ça nous paraissait assez virtuel. Oui, on sait vaguement, on a tous entendu, même culturellement, parler du royaume de Dieu. Et on se dit, le royaume de Dieu, c'est pour l'autre vie. S'il y a un après, c'est dans cet après qu'on sera citoyen du royaume. Et du coup, dans notre quotidien, moi, demain matin, je vais aller bosser et je ne suis pas sûr d'avoir le royaume de Dieu très présent à l'esprit. Alors, d'abord, on va en dire que, je rattache ça aussi à mon propos d'hier, c'est une notion qui n'est pas séparée des autres, parce qu'on pourrait se dire, mais qu'est-ce que ça a à voir avec l'épreuve ? Ça, au moins, c'est du concret, c'est presque du quotidien, en tout cas, c'est du vécu, comme on dit, et la persévérance aussi. L'effort de persévérance, ça, c'est quelque chose qu'on vit dans notre humanité, la royauté. Ça n'est pas ce qu'en dit la Bible en général, et Luc en particulier. C'est Jésus qui parle, ce n'est pas Luc, mais dans l'évangile de Luc, au chapitre 22 et au verset 28, on peut lire ceci. C'est donc Jésus qui parle et qui dit à ses disciples, « Vous êtes, vous, ceux qui avez tenu bon avec moi dans l'épreuve. Et moi, je dispose pour vous du royaume comme mon Père en a disposé pour moi. Ainsi, vous mangerez et boirez à ma table dans mon royaume et vous siégerez sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. » Il y a deux choses à tirer de ce texte. La première chose, c'est que Jésus, notre modèle, ne fait pas partie de ceux qui disent « on est toujours seul dans l'épreuve ». Il dit à ceux qui l'entourent, et on connaît les rapports que Jésus entretenait avec ses disciples, et la difficulté qu'il avait à faire rentrer son message dans la tête de ses disciples tellement humains, et qui nous ressemblent tellement, tellement lents à comprendre, tellement lents à mettre en pratique sa parole. Et pourtant, à ces gens-là, à ces bras cassés que nous sommes aussi, il dit « Vous avez tenu bon avec moi dans l'épreuve que j'ai traversée. » Le Fils de Dieu avait besoin des hommes pour l'accompagner dans l'épreuve. Pas nécessairement. Simplement, il leur dit « Vous avez été là. » Donc, même pour Jésus, l'épreuve, ça n'est pas quelque chose qui se vit seul. Et puis, c'est parce que vous avez traversé l'épreuve avec moi que vous allez disposer du royaume avec moi aussi. Donc, c'est intimement lié. Alors, une précision, j'allais dire, de vocabulaire. La langue française est riche, et je dirais presque dans ce cas-là trop riche, parce que en français, on a trois termes. On a royauté, règne, royaume. Alors très brièvement, la royauté, c'est la fonction. Le règne, c'est le fait d'exercer la fonction. Et le royaume, c'est l'espace et le lieu dans lequel la fonction s'exerce. En grec, il n'y a pas tout ça. Il n'y a pas toute cette palette. Il n'y a qu'un mot, et un mot qui est utilisé à chaque fois, et un mot qu'on traduit soit par royauté, soit par règne, soit par royaume, selon le contexte. Mais en réalité, dans les textes bibliques, c'est tout ça à la fois. Donc, quand par exemple, dans notre texte de référence, Jean dit « Je partage avec vous », c'est à la fois la royauté, le règne et le royaume. Donc, il ne faut pas saucissonner comme on le fait en français. Le champ sémantique en grec est global. C'est à la fois la fonction, à la fois le fait de l'exercer, et à la fois l'espace et le temps dans lequel la fonction s'exerce. Alors, dans Luc aussi, au chapitre 12 et au verset 32, chapitre 12, verset 32, il est dit ceci, c'est simplement quelques exemples que je prends pour dire que dans la bouche de Jésus, c'est pas une fois de temps en temps qu'il est question du royaume. C'est presque à chaque détour de conversation. Et là, au détour d'une conversation, il leur dit « Sois sans crainte, petit troupeau ». Et voyez comme il les unit ensemble en utilisant ce vocable. « Sois sans crainte, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » Donc là encore, la royauté, le règne et le royaume. Et dans la lettre aux Romains, au chapitre 5 et au verset 17, mais je vous accorde que tout ça, ça reste théorique, mais il faut poser le socle. Et après, on verra que ça n'est pas si théorique que ça. Romains chapitre 5, verset 17. Si par un seul homme, par la faute d'un seul, la mort a régné, à plus forte raison, par le seul Jésus-Christ, régneront-ils dans la vie ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice ? Si la mort a régné, alors ceux qui sont en Jésus-Christ vont régner aussi dans la vie. Et j'aborde tout de suite cet aspect des choses que quand on pense le royaume de Dieu, on se pense plus volontiers et par réflexe comme citoyen du royaume. Je vais être un citoyen, ou je suis déjà, si je le vis au présent, un citoyen du royaume de Dieu, parce que Dieu m'a accueilli en Jésus-Christ. La réponse de la Bible, c'est « Tu n'es pas seulement citoyen, tu es roi. » C'est pas « Je vous fais des citoyens du royaume », c'est « Dans le royaume, je fais de vous des rois. » Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément présent à l'esprit. L'idée que dans le royaume de Dieu, on règne. Moi, je me vois plutôt instinctivement comme un citoyen de base. Et encore, heureux d'être là. Bien content d'être là parce que admis évidemment par grâce, sans mérite. Donc déjà, si dans son royaume, il faisait de moi un esclave, mais champagne. Si déjà il veut bien de moi comme esclave dans son royaume, moi, je sors le champagne et je vous l'offre à tous. Et il me dit, je ne te veux pas comme esclave. Je ne te veux même pas comme citoyen. Je te veux comme roi. Je te veux comme exerçant les mêmes prérogatives que moi. C'est inconcevable, mais c'est la réalité du message biblique. Apocalypse 5, 9 à 10. Il chantait un cantique nouveau. Tu es digne de recevoir le livre et d'en rompre les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toutes les tribus, de toutes les langues, de tous les peuples et de toutes les nations. Et tu en as fait pour notre Dieu un royaume et des prêtres, et ils régneront sur la terre. Là encore, tu en as fait pour notre Dieu un royaume, un règne et une royauté. Mais qu'est-ce qui ne va pas dans ce texte ? Si vous connaissez un peu la législation de l'Ancien Testament, qu'est-ce qui ne va pas dans ce texte ? Il n'y a rien qui vous choque. Tu en as fait, c'est-à-dire de nous, pour notre Dieu, des rois et des prêtres. Stop ! C'est interdit par la loi. C'est interdit par la loi. Ces deux fonctions qui sont statutairement séparées, incompatibles l'une avec l'autre. Il n'y en a qu'un. Il n'y en a qu'un qui a cumulé les deux fonctions. Vous savez comment il s'appelle ? Melchisédek. Melchisédek, vous connaissez, c'est dans Genèse 14, cette espèce d'ovni, ovni parce que c'est une étoile filante, on ne sait pas ni d'où il sort, ni il est, contrairement aux autres, il n'est dans aucune généalogie, enfin, vous connaissez les développements sinon, je vous incite à le lire, de la lettre aux Hébreux. Dans la lettre aux Hébreux, il y a de longs développements sur Melchisédek, ce que ça symbolise. Et notamment, l'auteur de la lettre aux Hébreux dit « Melchisédek, on ne sait pas d'où il sort, il figure dans aucune généalogie, il est arrivé comme ça, il est reparti, on ne sait pas comment, on ne sait même pas s'il est reparti d'ailleurs, puisqu'on ne parle pas de sa mort. Et il avait une caractéristique que personne n'a eue ni avant ni après lui. Genèse 14, 18, c'est facile de se souvenir, c'est la guerre. C'est Melchisédek, roi de Salem, donc il est roi, qui fournit, c'est pas par hasard, qui fournit du pain et du vin. Il était prêtre de Dieu le Très-Haut, et il bénit Abraham en disant « Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut ». Et l'auteur de la lettre aux Hébreux dit « C'est pas l'inférieur qui bénit le supérieur, c'est le supérieur qui bénit l'inférieur ». Vous connaissez la démonstration de la lettre aux Hébreux, en disant « Donc, celui qui bénit Abraham est plus grand qu'Abraham ». Et vous savez la parole du psaume que le Nouveau Testament attribue à Jésus en disant « Tu es prêtre à la manière de Melchisédek ». C'est-à-dire, tu es à la fois prêtre et roi, et tu es le seul. Parce que la fonction royale et la fonction sacerdotale ne sont pas compatibles, ne sont pas cumulables entre elles. Et donc, Melchisédek, c'est un lieu commun théologique, c'est la figure du Christ, c'est-à-dire, c'est l'anticipation de cette réunion des deux fonctions, la fonction sacerdotale, donc le fait d'être prêtre, et la fonction royale, que le psaume attribue à Jésus en disant « Toi, Dieu te dit, tu es prêtre comme Melchisédek », c'est-à-dire tu es à la fois prêtre et roi. Et ce qui est, j'allais dire, choquant, c'est choquant dans le bon sens du terme, dans l'Apocalypse, c'est que on est, nous aussi, et quand il dit « Tu as fait un peuple, tu en as fait pour notre Dieu une collectivité de prêtres et de rois », ça veut dire que nous sommes associés à Christ dans ces fonctions-là. Et dans le même livre, au chapitre 22, les versets 3 à 5 nous disent « Il n'y aura plus de malédiction. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la cité et ses serviteurs lui rendront un culte. Ils verront son visage et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit. Nul n'aura besoin de la lumière, du flambeau, ni de la lumière du soleil, car le Seigneur Dieu répandra sur eux sa lumière et ils régneront au siècle des siècles. » Encore une fois, on est coutumier d'un discours qui nous dit « Vous, les chrétiens, vous serez membres, vous serez citoyens du royaume de Dieu. On sera plus que des citoyens. On sera associés à l'exercice de la royauté. » Voilà ce que nous dit le message biblique. Alors, une fois qu'on a entendu ça, je reviens à mon quotidien. On est tous ancrés dans le quotidien. C'est-à-dire, demain matin, on va aller travailler, pour la plupart d'entre nous. Et on en fait quoi de ça? Parce que, si c'est juste un savoir, ça n'est qu'une idéologie. Et si c'est une idéologie, on peut laisser ça à d'autres. Et la méprise existait déjà chez les interlocuteurs de Jésus qui lui disent « Bon, d'accord, mais c'est pour quand, cette histoire? C'est pour quand ?» Et c'est ce que rapporte l'évangile de Luc, au chapitre 17. Luc, chapitre 17. Les pharisiens lui demandèrent « Quand donc vient le royaume de Dieu ?» Le règne ou le royaume. Il leur répondit « Le royaume de Dieu ne vient pas comme un fait observable. On ne dira pas « Le voici » ou « Le voilà ». En effet, le royaume de Dieu est parmi vous. Et là, c'est un terme, c'est une locution qui veut dire à la fois parmi et en vous presque. en tout cas au milieu de vous. Et ça veut dire quoi? Bien, ça veut dire qu'il ne faut pas, il ne nous faut pas concevoir le royaume de Dieu au futur, enfin, dans un ailleurs de temps ou d'espace. Ailleurs de temps parce que ça concerne une vie qui n'est pas cette vie-là, qui est une autre vie, même si c'est notre autre vie. Et puis un ailleurs, c'est-à-dire c'est pas ici et maintenant, comme on dit. C'est ailleurs, dans le ciel, quelque part. Et Jésus dit non. Non, c'est ici et maintenant. C'est vraiment le sens. C'est ici et maintenant. C'est-à-dire que le royaume de Dieu, il faut voir les choses simplement avec des idées simples, c'est le temps et le lieu où il exerce sa souveraineté. Et donc, j'ai un scoop. Le royaume de Dieu, j'allais dire c'est moi. Je vais corriger, ça devrait être moi. Ça devrait être nous. Ça devrait être chacun de nous, c'est-à-dire le lieu et le moment où Dieu exerce sa souveraineté. Ben, c'est notre vie en principe. J'ajoute en principe parce que sinon je tremble. Et je suis obligé d'avoir peur de la décharge électrique qui va me griller. Parce que si je dis c'est la réalité, c'est ma réalité, bien sûr, je vous mens. Bien sûr, Dieu n'est pas totalement le souverain de ma vie. Et il le sait, et je le sais aussi, malheureusement. Mais l'appel qu'il nous lance est celui-là. Le royaume de Dieu, le règne de Dieu, la royauté de Dieu, c'est toi, ici et maintenant. Et ce royaume qu'est notre vie, notre existence, parce que ça c'est concret, et ça c'est quotidien. Dieu règne, et Dieu du coup, parce que ce sont les textes qu'on a lus, et qui du coup prennent une tournure beaucoup moins théorique, cette royauté-là, il la partage avec moi. C'est-à-dire, je règne sur ma vie, mais par délégation. En tant que je suis associé. Alors, c'est très facile de glisser, et je le fais quotidiennement. Ah bon, bah alors si je règne sur ma vie, ça tombe bien, je reprends les rênes, et du coup, bah, je fais ce que je veux. Donc ça ne me différencie en rien de ceux qui m'entourent. Et si ça ne me différencie en rien de ceux qui m'entourent, qu'est-ce que j'ai à leur dire? Qu'est-ce que j'ai à leur raconter? Leur vendre des idées? Leur vendre une idéologie chrétienne? Mais ils s'en foutent des idéologies. On a essayé de leur en vendre pendant tout le XXe siècle et on a vu ce que ça avait donné. Donc l'idéologie chrétienne n'est pas plus solide que les autres sur ce terrain-là. C'est pas ça la question. La question, c'est moi aussi, je règne sur ma vie, mais avec Dieu, en association avec Dieu, en association avec son Fils. Il y a quelque chose qu'il faut lire attentivement, même si on le sait par cœur, c'est la prière de Jésus dans Jean au chapitre 17. Dans Jean au chapitre 17, quand Jésus prie son Père, il lui dit « Et moi, je leur ai donné la gloire » et on pourrait... Alors, ce n'est pas le même mot en grec, mais on pourrait presque mettre à la place de la gloire la royauté. Moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée pour qu'ils soient un comme moi, nous sommes un, moi en eux, comme toi en moi. C'est-à-dire, moi, le souverain de leur vie, comme toi, mon Père, le souverain de la mienne. C'est-à-dire, encore une fois, et c'est concret, Jésus, pas un mot, pas un geste, pas une pensée, si son Père ne lui dicte pas. Et il dira, sur ce plan, moi, je ne fais rien par moi-même. Je ne fais, je ne dis, et même je ne pense que ce que Dieu me donne à dire, à faire et à penser. Qu'il soit un, et que je sois en eux, comme toi, tu es en moi, moi en eux comme toi en moi, est-ce que, la réponse est clairement non en ce qui me concerne, mais c'est encore une fois à ça que je suis appelé et on est tous en chemin, donc on n'a pas à se juger les uns les autres. Est-ce que je suis dans ma relation avec Jésus comme Jésus est dans la relation avec son Père? C'est-à-dire, bien sûr, Jésus est le souverain de sa vie, au sens où Jésus est libre. Jésus n'est pas l'automate de Dieu, et je ne suis pas, et nous ne sommes pas les automates de Jésus. Simplement, est-ce que, en tant que roi associé dans l'exercice de la souveraineté, nous prenons les mêmes décisions ensemble? Eh bien, moi, je peux vous dire que dans ma vie, il y a un paquet de fois où je pourrais l'entendre me dire, sur ce terrain-là, je ne te suis pas. Là, c'est toi qui règnes, mais ce n'est pas moi. Nous ne sommes pas conjointement les rois de ta vie, là. Ne te méprends pas, ne te leurre pas. Là, tu es en train de partir tout seul, dans ta direction. Mais alors, tu ne fais pas semblant d'être le porte-drapeau d'un royaume qui n'est pas le mien. Attention, parce que... Enfin, attention, encore une fois, la foudre ne va pas nous tomber dessus. Dieu est avec nous, heureusement, dans une relation qui n'est faite que de grâce. Mais veillons à un minimum de cohérence, et je parle pour moi. On a assez vite fait de dire que nous sommes disciples du Christ. Faut pas se contredire, quoi. Et là, on sait tous que ce ne sont pas les paroles qui comptent, ce sont les actes, prioritairement. Le message, et ça on l'a découvert récemment, mais la Bible le dit depuis toujours, l'essentiel du message ne passe pas par ce qui est verbalisé, mais passe par ce qu'on appelle le non-verbal, c'est-à-dire par les comportements. Alors, évidemment, ça n'a de sens, cette histoire de souveraineté, cette histoire de royauté, ça n'a de sens d'être roi avec lui, encore une fois, ici et maintenant, comme plus tard et ailleurs, que si d'abord il est roi avec nous et en nous. Et c'est pour ça que Jean dit « En Jésus-Christ ». Je partage avec vous, on a vu l'épreuve en Jésus-Christ. Je partage avec vous la royauté, le règne, le royaume en lui. Sinon, ça n'a pas de sens. Et j'en viens à mon troisième point, la persévérance, puisque Jean dit l'épreuve, la royauté et la persévérance. Et là encore, il n'y a pas besoin de se presser longtemps le citron pour réaliser que quelle plus grande persévérance que celle du Christ, qui dit depuis le début « Il faut que j'aille vers la mort. Il faut que j'aille vers la mort parce que le salut de l'humanité en dépend. Et quand on sait qu'on va vers la mort, et quand on sait dans quelles circonstances et de quelle manière on y va, aller jusqu'au bout. Et encore une fois, je redis ce que je disais hier, le plus difficile, ce qui fait de Jésus le modèle absolu, non seulement de l'épreuve, mais de la persévérance, c'est pas d'être mort sur une croix, parce qu'encore une fois, des croix, il y en avait partout dans l'Empire romain. Des condamnations à mort, eux ne se posaient pas la question de la peine de mort. C'était vite expédié. Donc des croix, il y en avait, comme les éoliennes aujourd'hui, on en voyait sur toutes les collines. Donc il n'est pas le seul à avoir été exécuté de cette manière-là. On est bien d'accord. Mais il est le seul à avoir souffert, en tant que fils de Dieu, la séparation d'avec Dieu. Quelqu'un avec qui on est un, en venir parce qu'on porte la faute entière de l'humanité, c'est-à-dire toutes les imperfections. Le mot péché est devenu désuet, donc toutes les imperfections, c'est de ça qu'il s'agit. toutes les imperfections de l'humanité depuis son origine jusqu'à sa fin, quand on porte ça au point que la relation avec quelqu'un dont on peut dire « on est un tous les deux » est obscurcie au sens propre du terme. Parce que vous savez que même les rayons du soleil ne passeront plus à ce moment-là sur la Terre. Dire « mais pourquoi est-ce que tu m'as abandonné ?» Hurler sa douleur de la séparation d'avec Dieu. Ça, en sachant que ça va arriver, et en sachant depuis le début que ça va finir comme ça, ça c'est le modèle de la persévérance. Parce que la souffrance de Jésus dans la séparation avec son Père est infiniment plus grande que sa souffrance physique. Alors, on se sent, je me sens, mais je pense que bienvenue au club, vous êtes du même côté que moi, tout petit et tout à fait incapable même d'imiter le Christ sur ce terrain. Et pourtant, encore dans l'Apocalypse, puisque je garde cette référence prioritaire, Apocalypse chapitre 3, verset 10, qu'est-ce qui nous est demandé ? Et je fais encore une fois le lien entre les trois concepts qui paraissent tellement étrangers les uns aux autres. « Parce que tu as gardé ma parole avec persévérance, moi aussi je te garderai à l'heure de l'épreuve. » Et la boucle est bouclée. C'est-à-dire, parce que on persévère dans la foi, la confiance dans sa parole, alors lui, il nous rend capable de surmonter l'épreuve. Et donc, on est frères et compagnons, c'est-à-dire les gens qui partageons la même chose, dans la persévérance et dans l'épreuve. Et je termine en disant qu'on a une leçon, ça aussi c'est un texte archi connu, mais on a une leçon de ce qui provoque, enfin de ce qui peut provoquer, ou plutôt à l'inverse, de ce qui peut faire obstacle, parce que c'est plutôt démontré négativement, de ce qui peut faire obstacle à la persévérance dans l'évangile de Matthieu au chapitre 13. Tout le monde connaît ça par cœur, c'est la fameuse parabole de la semence, parabole du semeur si vous voulez. Voici que le semeur est sorti pour semer, et comme il semait, des grains sont tombés au bord du chemin, et les oiseaux du ciel sont venus et ont tout mangé. D'autres sont tombés dans les endroits pierreux où ils n'avaient pas beaucoup de terre, ils ont aussitôt levé parce qu'ils n'avaient pas de terre en profondeur. Le soleil étant monté, ils ont été brûlés, et faute de racines, ils ont séché. D'autres sont tombés dans les épines, et les épines ont monté et les ont étouffés. D'autres sont tombés dans la bonne terre, et ils ont donné du fruit, l'un 100, l'autre 60, l'autre 30. Entende celui qui a des oreilles. Donc, les disciples, c'est-à-dire ceux qui entendent ça, sont un peu scotchés. Qu'est-ce que ça veut dire ? Et tout de suite après, il leur donne l'explication. Voici donc ce que dit la parabole du semeur. Quand l'homme entend la parole du royaume et ne comprend pas, c'est que le malin vient et s'empare de ce qui a été semé dans son cœur. Tel est celui qui a été ensemencé au bord du chemin. Celui qui a été ensemencé dans des endroits pierreux, c'est celui qui, entendant la parole, la reçoit aussitôt avec joie, mais il n'a pas en lui de racine, et il est l'homme d'un moment. Dès que vient la détresse ou la persécution, à cause de la parole, il tombe. Celui qui a été ensemencé dans les épines, c'est celui qui entend la parole, mais le souci du monde et la séduction des richesses étouffent la parole, et il reste sans fruit. Celui qui a été ensemencé dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et comprend. Alors il porte du fruit et produit l'un 100, l'autre 60 et l'autre 30. Donc là, il y a trois mauvais exemples pour un bon. Trois semences qui ne donnent rien pour une semence qui porte du fruit. Et les trois semences qui ne donnent rien ont des choses à nous apprendre sur la persévérance. La première des leçons, c'est la première semence, celle qui tombe au bord du chemin. Qu'est-ce que Jésus nous donne comme explication ? L'homme entend la parole du royaume et ne comprend pas. Et d'ailleurs, il en met une couche en disant « Celui qui a été ensemencé dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et qui comprend. » La première des choses, c'est de comprendre. À l'inverse des religieux de son temps, qui disaient au peuple « Apprenez, apprenez, mais surtout ne cherchez pas à comprendre », ce qui est une façon de garder le pouvoir. Parce qu'effectivement, à partir du moment où il y a des gens qui pensent pour vous, ils ont du pouvoir sur vous. Et à l'époque de Jésus, le problème des religieux, c'était ça. C'était qu'ils avaient le pouvoir sur le peuple parce qu'ils pensaient à la place du peuple. Et Jésus choisit des disciples à qui, pour la première fois, il dit « Comprenez, comprenez ce que je dis, comprenez ce que je fais ». Et eux ne sont pas habitués parce que ce n'est pas la culture du moment. La religion, ça se reçoit et on obéit, et j'allais dire on obéit bêtement. Et Jésus va s'arracher les cheveux là-dessus en disant « Mais vous ne comprenez pas ». La première des choses, la première des conditions de la persévérance, c'est d'avoir compris. C'est d'avoir compris le message que Dieu nous adresse. On ne peut persévérer dans quelque chose que si on y adhère au sens le plus profond du terme, si on l'a compris et si on se l'est approprié. C'est pour ça que la première des conditions de la persévérance, ça ne vous étonnera pas si je vous dis ça, c'est l'étude du message biblique, la recherche de la compréhension de ce que Dieu a à nous dire. « Je ne vous ai pas appelé serviteur, nous dit Jésus. Je vous ai appelé mes amis. » Et il ajoute, parce que la différence entre un serviteur et un ami, c'est qu'un serviteur, on ne lui demande pas de comprendre. Un serviteur n'a pas besoin de comprendre ce que fait son maître. Il obéit. Et un ami, il adhère librement à ce que son ami lui dit. Il nous a appelés amis. Il ne nous a pas appelés à obéir sans comprendre. Parce que l'obéissance sans comprendre ne résiste pas à l'épreuve et donc ne permet pas la persévérance. La première des conditions de la persévérance, c'est que nous ayons compris l'étendue de l'amour de Dieu pour nous, l'étendue du sacrifice du Christ, l'étendue de sa volonté de nous faire du bien au quotidien, l'étendue de sa capacité à pardonner infiniment et indéfiniment. Ça, il faut le comprendre. Si on apprend un catéchisme, comme il le dit, le catéchisme, le diable, c'est comme ça qu'il exprime les choses, le malin vient et s'empare de ce qui a été semé. Le catéchisme que vous connaissez par cœur, ça ne pèse rien face à l'épreuve de la vie. La deuxième des conditions de la persévérance, c'est le deuxième exemple qui nous est donné. Celui qui a été ensemencé dans des endroits pierreux, c'est celui qui, entendant la parole, la reçoit aussitôt avec joie, mais il n'y a pas en lui de racine. Il est l'homme d'un moment, dès que vient la détresse ou la persécution à cause de la parole, il tombe. C'est pas la même chose que le premier exemple. Et vous avez peut-être eu cette réticence sur mon premier développement, la première condition. Ça ne consiste surtout pas qu'il n'y ait pas de méprise là-dessus. Quand je dis « il faut comprendre », c'est pas « il faut se presser les méninges, il faut se connecter les neurones et il faut intellectuellement s'emparer du message biblique ». Parce que si ça ne reste que ça, si ça n'est qu'une adhésion intellectuelle, si ça n'est qu'une compréhension, j'allais dire littéraire, alors ça non plus, ça ne pèse rien. Qu'est-ce que c'est que l'enracinement? Qu'est-ce que c'est que la deuxième condition de la persévérance? Eh bien, c'est que cette compréhension qu'on a du message biblique débouche sur une relation Parce que adhérer, moi, en toute prétention, en toute immodestie, ce que vous voulez, il y a un certain nombre de penseurs que je crois avoir globalement compris. Il y a quelques philosophes qui n'ont, j'allais dire, plus beaucoup de mystère pour moi. Bon, il y en a même parmi ceux-là, alors il y a ceux avec lesquels je suis clairement pas d'accord, il y en a même parmi ceux-là avec lesquels je suis plutôt d'accord. Mais si vous me mettez un revolver sur la tempe, je vous dirai tout de suite que ce qu'il raconte, c'est des âneries. Parce que je ne vais pas risquer ma peau pour ça. Moi, je ne risque pas ma peau pour une idéologie, même si j'y adhère. Parce que je suis un homme libre. Je sais qu'il y a des gens qui sont morts pour des idéologies. Et on sait qu'au XXe siècle, ça s'est compté autour d'une centaine de millions. Mais moi, je ne meurs pas pour une idéologie, même pour l'idéologie chrétienne. Moi, ce qui me fait persévérer, c'est pas que j'ai compris intellectuellement le message biblique. D'ailleurs, c'est très prétentieux de le formuler comme ça. Évidemment que je n'ai pas tout compris. Enfin, je pense avoir compris un petit peu quand même. Mais ça, ça pèse rien. Face à l'épreuve de la vie, comme il dit. Dès que vient la détresse ou la persécution à cause de la parole, il tombe, bien sûr. Je vous dis, moi, vous me mettez un revolver sur la tempe, quelque chose auquel j'adhère intellectuellement, je laisse tomber, hein. C'est pas ça qui fait ma persévérance. Ma persévérance, c'est que la compréhension que j'ai du message que Dieu m'adresse, ça a débouché sur une relation avec lui. La deuxième étape, c'est ça. C'est j'ai compris, et du coup, j'ai compris qu'il m'aimait tellement, mais tellement. Il a tellement aimé le monde. Et à la limite, les autres, je m'en fous. Pardon. Parler comme ça. Mais moi, il m'a tellement aimé, alors que j'étais tellement détestable, et que je le suis encore. Si de sa part, c'est pas de la persévérance, que je ne peux pas ne pas l'aimer. Je ne conçois pas de ne pas aimer quelqu'un qui m'a aimé à ce point-là, qui me connaît à ce point-là, qui m'accepte à ce point-là. Donc je veux le connaître de plus en plus pour pouvoir l'aimer de mieux en mieux. Et si ça débouche pas là-dessus, ma persévérance, elle va voler en éclats au premier caillou du chemin. Donc, il s'agit pas de comprendre le christianisme comme en d'autres temps j'ai compris le marxisme, ou comme j'ai compris Nietzsche, ou comme j'ai compris qui vous voulez. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Il s'agit de répondre à l'amour de quelqu'un qui m'aime à la folie, de manière incompréhensible. Quelqu'un dont je me dis tous les jours, à sa place, je ne m'aimerais pas. À sa place, je m'aurais pulvérisé depuis longtemps. Et il continue tous les jours de me dire « Je suis ton père. Tu peux m'appeler père. » Troisième condition de l'enracinement, de la persévérance, celui qui a été ensemencé dans les épines, c'est celui qui entend la parole, mais le souci du monde et la séduction des richesses étouffent la parole et il reste sans fruit. J'ai compris. J'ai une relation avec lui. Les deux premières conditions de la persévérance sont remplies. La troisième condition, c'est que ça, plus ça, ça débouche sur une vie qui change. Parce que une compréhension intellectuelle plus une relation dans le secret, alors pas de mon cerveau, mais de mon cœur, ça ne remplit pas, ça ne répond pas parfaitement à l'appel de Dieu qui nous dit si ça c'est vrai, si tu as à ce point compris, et si tu as à ce point le désir d'être en relation avec moi, eh ben, forcément, ou sinon c'est du verbiage, sinon c'est de la littérature, sinon tu racontes ce que tu veux, mais c'est du vent, forcément, ça débouche sur ta vie qui change pour ressembler de plus en plus à celle de mon fils. Et ça, si ça ne marche pas comme ça, alors effectivement, notre environnement sera le plus fort, c'est-à-dire le souci du monde et la séduction des richesses, c'est-à-dire ce qu'on a autour de nous, va nous déterminer beaucoup plus que notre condition de disciple. On est de toute façon déterminé par quelque chose. Soit c'est notre identité d'enfant de Dieu, de disciple de Jésus, soit on est déterminé par le monde qui nous entoure. Et donc, on va calquer nos comportements sur le comportement des autres. C'est-à-dire, là, il est question des richesses, il est question le souci du monde et la séduction des richesses, mais notre environnement, globalement, va nous déterminer. Et une force inouïe va faire le boulot sans qu'on s'en aperçoive, c'est le mimétisme. Parce qu'il est tellement plus simple et tellement plus confortable d'être semblable aux voisins, semblable aux autres. On a tellement la paix quand on fait la même chose que les autres en même temps, en étant habillé pareil qu'eux. Ah, ils vous foutent une paix royale. Celui que Dieu m'a donné comme modèle était tellement à l'opposé de ça qu'il n'a pas survécu. Être tellement différent du monde qui vous entoure, mais ça vous conduit à la mort, tout droit. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va tous finir sur un poteau d'exécution. Mais ça veut dire que la parole de Jésus, ils m'ont persécuté, ils m'ont cassé les pieds, ils vont vous casser les pieds aussi, hein, c'est comme ça qu'on pourrait le traduire. C'est une réalité. C'est-à-dire, si ma vie change comme elle doit changer, eh bien, évidemment, elle sera en décalage avec mon environnement. Et évidemment, mon environnement me le fera sentir en permanence ou quasiment. Et on le sait, on l'a tous, on a tous eu la chance de l'expérimenter au moins de temps en temps. Et j'allais dire, le plus souvent possible. Alors, si on a compris, si on a cette vraie relation et si on a cette vie qui change au quotidien, progressivement, avec des aléas, avec la faiblesse qui nous caractérise en tant qu'humains, eh bien là, on a, nous dit la Bible, nous dit le message de Dieu, les conditions de la persévérance. Et moi, je vais vous dire un truc pour finir, parce que là, j'ai fini. Je pourrais illustrer encore avec des citations bibliques et encore avec des textes le fait que ça n'est pas seulement l'affaire de chacun isolé dans son coin, mais c'est l'affaire de tous. Et que la persévérance, c'est quelque chose qui peut aussi se cultiver ensemble. Ceux qui sont là depuis au moins quelque temps le savent, notre Église a été à un moment, j'allais dire transitoire, placé sous la responsabilité d'un comité dont je faisais partie. Et au milieu de beaucoup de défauts, ce comité en avait un, c'est qu'il se réunissait à peu près à l'heure où j'ai pas tout à fait fini de bosser. Et donc, la plupart du temps, je me disais, bon, il me gonfle, de toute façon, j'ai pas spécialement envie d'y aller, j'ai pas spécialement de choses à dire, puis je peux pas leur être d'une grande utilité. Donc, je vais finir de travailler mes dossiers, ce sera beaucoup plus utile. Et dans ces moments-là, j'avais, alors je vous le dis, aucun verset biblique qui me venait, parce qu'il n'y a aucun verset biblique qui dit qu'il faut aller aux réunions du comité, ça c'est clair, mais je me disais, mais attends, on est 9 dans ce comité, si les 9 font comme toi, parce que les autres aussi, t'es pas le seul à avoir du boulot, donc, sur les 9, il y en a bien quelques autres qui ont aussi autre chose à faire. Autre chose de très honorable, d'ailleurs, parce que j'allais pas me saouler dans un bar, je continuais à bosser. Mais de bonnes raisons pour pas venir, il y en a d'autres qui vont les avoir. Si tout le monde fait pareil. Et je me disais, et puis, quand même, c'est pas désagréable de les rencontrer, de se retrouver avec eux. C'est pas désagréable de continuer cette aventure qu'on a commencée ensemble. Et je me disais, je leur dois bien ça. Je leur dois bien ça. Alors, encore une fois, sans que j'aie de prétention sur la contribution que je pouvais apporter à cette institution, mais je me disais, quand même, par respect pour eux, qui, eux, vont faire l'effort de venir, d'arrêter de faire ce qu'ils ont à faire et qui est tout aussi important et tout aussi intéressant que ce que moi je fais. Pour eux qui vont faire l'effort de venir, par respect, je dois persévérer là-dedans. Et je peux vous dire, et ça c'est encore une fois, ça n'a rien de théologique ni rien de biblique, mais c'est une réalité. Le moteur de ma persévérance, ça a été les autres. Les autres membres du comité. Et quand je sortais des réunions du comité, je me suis jamais dit, bien au contraire, je me suis jamais dit j'ai fait le mauvais choix, j'aurais dû rester au bureau. Je me suis toujours dit finalement c'était bien d'être là, et c'était bien d'être là ensemble. Et j'ai la prétention de penser que eux aussi, enfin parmi eux, il y en a qui, une fois ou l'autre, ont pensé la même chose, c'est-à-dire j'ai pas envie d'y aller, et qui se sont dit je vais me botter les fesses et je vais y aller quand même parce qu'il y a les autres. Et que là, la persévérance, ça a du sens parce que chacun est la brique d'une construction collective de persévérance. Et c'est la persévérance des autres qui a, dans ces moments-là, généré la mienne. Voilà. Donc je voulais simplement dire ça pour dire que la persévérance, c'est pas chacun isolé dans sa tour d'ivoire et qui dit « Seigneur, aide-moi à avancer ». C'est aussi par là qu'on est frère et compagnon, au sens où on partage, comme l'épreuve, comme la royauté, la persévérance. Voilà, merci de m'avoir écouté.